Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une rediffusion consacrée à l'église de Lunegarde. Gilles Chevrioux est parti à la rencontre de Pierre Philippoteau, responsable local de la pastorale du tourisme, et de Madame Grave, une habitante qui prend soin de cette église depuis des années et qu'elle la connaît presque par cœur. Bonne émission.
De pierre et de prière. Aujourd'hui, nous sommes en déplacement, en plein Causse, dans un petit village d'environ 75 à 80 habitants qui se nomme Lunegarde. Lunegarde a une jolie église, et avant de parler de ce lieu et de ce monument avec Madame Grave, notre invitée, j'ai à mes côtés Monsieur Philippoteau, qui est le responsable local de la pastorale du tourisme, et je vais lui demander qu'il se présente et qu'il nous dise quel est son rôle. Monsieur Philippoteau, je vous écoute.
Voilà, donc Pierre Philippoteau, donc je suis à l'association, donc à la pastorale touristique depuis le début de l'année. Et je recherche donc pour la pastorale donc des sites comme Lunegarde, comme Flora, comme d'autres qu'on va visiter donc et parler. Et donc aujourd'hui donc Lunegarde, j'ai trouvé Madame Grave qui va nous parler de l'église et surtout des peintures. Voilà.
Alors je crois que la pastorale du tourisme a aussi un rôle de permettre l'ouverture des églises et d'y accueillir des pèlerins ou des touristes.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Alors quelles sont effectivement vos attributions dans ce domaine? Est-ce que vous êtes un lien entre les organisations touristiques, les collectivités, les mairies pour dire que l'église finalement est ouverte et que vous êtes là pour aider à accueillir?
Non, c'est plutôt un lien entre l'association elle-même et les personnes qu'on va trouver sur le terrain.
D'accord, donc finalement vous êtes là pour veiller à ce qu'il y ait un réseau de correspondants locaux, de personnes pérennes sur les lieux pour pouvoir accueillir.
Voilà, tout à fait.
Eh bien, merci pour cette première présentation. Donc, Madame Grave, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, je crois que vous connaissez bien cette église puisque vous la côtoyez depuis environ une trentaine d'années et que finalement vous vous en occupez depuis toujours.
Toujours, depuis que je suis à la retraite, je suis dans cette église, je nettoie, je mets des fleurs, je l'embellis de façon à ce qu'elle soit accueillante et agréable pour tous les gens qui viennent visiter notre église, qui est une église magnifique.
Alors, cette église, elle se voit de loin. Nous sommes dehors et nous allons en faire le tour en compagnie de mes deux invités. Et cette église, elle apparaît finalement très haute et très petite à sa base.
C'est vrai, elle est curieuse, justement, elle surprend parce que on a l'impression qu'on va rentrer dans une grande église et c'est pas du tout un grand monument. C'est grand comme ça d'aspect, mais intérieurement, on peut mettre à peu près 100 personnes.
Alors, on va faire le tour si vous le voulez bien, et puis on va découvrir non seulement l'église, mais aujourd'hui, puisque nous sommes au mois de décembre et à l'approche de Noël, l'association locale d'animation a bien fait les choses, puisque nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de décorations, et l'église aussi en est abondamment parée, n'est-ce pas? Je pense que vous avez certainement donné tout à fait votre accord pour ces décorations.
Pour ces décorations, nous avons donné notre accord parce que nous trouvons que ça l'embellit encore, ça donne un plus pour notre église et puis pour tous les gens qui viennent.
Alors bien sûr ça crée aussi du lien parce qu'une église toute seule dans un village, s'il n'y avait personne aux alentours, finalement ça ne servirait à pas grand chose.
C'est sûr.
Alors, on est à l'arrière de cette église, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la bâtisse par elle-même?
Là, je ne peux pas vous dire grand-chose. Ça, c'est une église du 15e qui a été rebâtie sur une église du 12e. Donc, il est difficile de vous donner d'autres explications.
Alors, quel est son style? C'est un style roman, un style gothique?
Une partie. C'était une église au 12e. C'était une église romane, mais qui a perdu peut-être un peu
de son caractère roman,
mais c'est une église qui reste quand même avec des vestiges anciens.
Alors, cette église que nous continuons à parcourir dans son extérieur est placée sous le vocable de Saint-Julien de Brioude. Saint-Julien de Brioude, ça fait référence à l'Auvergne.
Oui, c'est un protecteur des voyageurs.
Voilà, donc...
Ici on passait beaucoup pour le Saint-Jacques de Compostelle. Les gens voyageaient énormément.
Alors, est-ce que cette église est unique hein, sur Lunegarde?
Oui, elle est unique. Il n'y a pas d'autre église.
Alors, vous me disiez tout à l'heure que Lunegarde n'était pas forcément placée là initialement, que le village aurait été localisé ailleurs. Est-ce qu'on sait si, à cet ancien endroit, il y avait déjà une première église primitive?
Oui, j'ai entendu dire par les anciens qu'il y avait en essai une église très ancienne. Mais... Nous n'avons que maintenant des pierres et nous ne savons pas exactement, nous n'avons pas cherché à savoir sans doute, parce que nous ne savons pas exactement ce qui se passe.
Alors maintenant nous allons poursuivre notre visite et allons entrer bientôt dans le bâtiment. Alors nous sommes maintenant devant le portail principal de l'église et Madame Grave, nous allons vous écouter pour cette seconde partie.
Située sur une colline à 425 mètres d'altitude, nous avons notre église. Et c'est une église extraordinaire parce que vu son haut clocher, on a une vue sur tout le causse de Gramat. Et de loin, on nous voit la nuit par contre, ça fait comme un phare dans la nuit. On aperçoit Lunegarde. On voit cette grande église, que ce soit de Seigneur, que ce soit de Gramat, sur la route de Gramat à Rocamadour, que ce soit de Gramat à Rayac, on nous aperçoit. Alors, et moi j'ai le plaisir à chaque fois que je vais me promener et que j'aperçois cette lanterne dans la nuit, j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à retrouver mon nid.
Alors nous allons maintenant rentrer dans l'édifice. Alors lorsque l'on pénètre dans cette église, qu'est-ce qu'il faut d'abord, qu'est-ce qui attire notre regard?
On est tout de suite attiré par les peintures. Et les gens qui arrivent, en général, s'extasient en disant « c'est formidable, c'est formidable, on a quelque chose d'extraordinaire ». Et c'est vrai, c'est toute la nativité qui se présente devant nos yeux. Mais toute la nativité a une certaine période où qui est extraordinaire aussi. Alors, donc il y a de la découverte à faire, et quand on est là, on cherche à savoir ce que peuvent représenter ces peintures.
Alors ces peintures, elles sont situées dans l'église à quel endroit précisément?
Elles sont situées dans le cœur de l'église. Alors vous avez des arcs de voûte, et c'est là qu'on retrouve le style roman.
Alors, on va se diriger maintenant dans le centre du bâtiment.
Oui.
Alors, ce bâtiment, il est composé donc de deux chapelles latérales.
Deux chapelles latérales, c'est ça.
Alors,
deux chapelles latérales avec la nef. Et nous avons, on est étonné aussi parce que le regard est attiré par une tribune qui permettait d'accéder à une chambre forte qui se trouvait située au-dessus de toute la nef. Voilà ce que je voulais vous signaler, parce que cette chambre forte permettait quand même aux gens de se mettre à l'abri lorsqu'il y avait des attaques dans le pays. Parce que ici, ça servait, cette église servait vraiment de donjon, de tour de garde, et dès que le village était attaqué, automatiquement, vous aviez des cultivateurs qui travaillaient dans les champs. On sonnait les cloches et les gens venaient se réfugier dans cette chambre forte.
Alors, en regardant cette tribune, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a le chemin de croix.
Voilà. Mais le chemin de croix, on l'a laissé là-haut parce qu'on n'a pas voulu le remettre quand on a fait notre restauration. On n'a pas voulu le perdre, ce chemin de croix. Il nous tenait à cœur, on l'avait depuis fort longtemps. Mais on n'a pas voulu le remettre dans l'église, car ça n'allait plus avec le travail qui avait été fait.
Donc c'est une question de style finalement, pour éviter de les mélanger.
Pour éviter de mélanger.
Alors maintenant on va aller vers la chapelle latérale dans laquelle se trouve voilà. La vitrine avec alors, le trésor.
Cette chapelle s'appelle la chapelle de la Vierge. Et nous avons mis une vitrine avec tous les vêtements sacerdotaux que nous avions garés. On les avait mal garés et maintenant ils sont bien, ils sont à l'abri des poussières. Et ça permet à tout le monde, tous les gens qui viennent, parce que nous avons souvent du monde et surtout l'été, ça leur permet de découvrir ces vêtements anciens qui sont quand même pas très anciens, qui ne sont pas du 20e siècle. On n'a qu'une chasuble du 20e siècle, mais les autres sont du 19e.
Alors, pour les découvrir, peut-être on va rallumer la lumière, puisque nous nous trouvons dans le noir. Alors, de quoi est composée cette vitrine, Madame Grave ?
Cette vitrine est composée des vêtements sacerdotaux et ces vêtements du sacerdotaux sont du 20e siècle, mais du début 20e siècle. Et il y en a un seul qui est très beau, celui-là, il est du 19e, c'est le seul. Et nous avons mis tous les petits objets religieux que nous avons trouvés, tous les vases que l'on mettait à l'époque, les plats des âmes, tous ces objets sont là, sont présents. Alors il y en a de très jolis, il y en a de moins jolis parce que l'église n'était pas riche, donc il y avait des petites choses, mais c'est un plaisir de les regarder et tous les gens qui viennent, qui passent, sont toujours contents de les voir et de faire des commentaires très agréables.
Alors est-ce que l'on sait par exemple, pour les vêtements sacerdotaux, quels sont les prêtres qui les ont portés ?
Moi, j'ai connu le curé Bory, voilà, parce que nous n'avons plus de prêtres à demeure depuis 1937.
Mais je pense malgré tout qu'il y a quand même eu des célébrations avec du temps du père Bergoglius.
Oui, voilà, ah oui, après, il y a eu d'autres... c'est vrai que j'oublie moi aussi, mais si vous voulez, il y a eu d'autres prêtres qui sont venus... Moi, je ne me souviens plus des noms de ces prêtres, mais il y a eu deux ou trois prêtres, oui, je ne me souviens pas là.
Alors, maintenant, on va se tourner de l'autre côté de la vitrine, et qu'est-ce que l'on peut trouver dans ce décor ?
Dans ce décor, on trouve l'Ascension. L'Ascension de la Vierge Marie, c'est quelque chose de magnifique sur un rétable, entouré d'un rétable quand même baroque, de style baroque, qui est magnifique aussi.
Alors, est-ce que l'on sait de quel atelier ce rétable provient ?
On pense que c'est du XVIIe siècle, mais je n'ai pas le nom de l'atelier.
Donc, cette chapelle, vous m'avez précisé qu'elle était dédiée à ?
À la Vierge. Ici, la chapelle du Saint-Bandeau. Et la chapelle du Saint-Bandeau, car nous détenons de précieuses reliques, dont le Saint-Bandeau, que le Christ portait dans le prétoire quand on lui demandait « Christ, qui es-tu ?»
Voilà. Et donc cette relique, je crois qu'elle n'est plus ici, elle est entreposée au musée d'art sacré à Rocamadour.
Elle doit être au musée d'art sacré de Rocamadour, mais je n'en suis pas sûre, je ne peux pas vous l'affirmer. Parce que nous avons des reliques dans un autre reliquaire qui c'est du 19e siècle qui se trouve dans notre église. Alors je pense que nous détenons quand même le Saint-Bandeau, bon, nous pensons nous le détenir en tout cas, le Saint-Bandeau, un morceau du Saint-Roseau et un morceau de la Sainte-Croix.
Voilà, et bien écoutez, merci pour ces explications et puis rendez-vous pour une prochaine émission.